Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM 98 avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Bienvenue et merci à vous tous qui nous écoutez sur IDFM 98 ou 98.fr pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Univers d'objets connectés, cours de cuisine pas comme les autres et bornes de recharge électrique. Nous en parlons ce matin, mardi 18 octobre, avec mes trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Frédéric Nouchi, bonjour Frédéric. Merci pour votre présence dans nos studios. Frédéric, vous êtes le fondateur et président de Aliseos, un bureau d'études spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et collectivités à l'amélioration des performances de leur infrastructure via les nouvelles technologies. Nous découvrirons comment dans quelques instants. Avec nous également Francesca Maragliano. Bonjour Francesca.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être à nos côtés ce matin. Francesca, vous êtes la fondatrice de Hello Cake by Francesca, une activité faite de saveurs et de partage, puisque vous donnez des cours de cuisine et de pâtisserie. Vous nous raconterez comment est née cette envie de transmettre et sous quelle forme vous donnez ces cours.
Oui, merci.
Et puis aussi avec nous, Julien Martinez. Bonjour Julien.
Bonjour Jacqueline.
Également, merci d'être présent sur IDFM 98, président fondateur de ALMB Group, louermaborne.fr et achetermaborne.fr, une solution clé en main pour ceux qui utilisent des véhicules électriques. Mais alors que l'une des objections souvent invoquées est le souci de bornes de recharge, de la location ou l'achat, vous nous expliquerez l'intérêt principal de faire appel à votre entreprise. Bienvenue et merci à tous les trois d'être en direct sur IDFM 98 ou 98.fr dans l'économie en direct. Mais avant de vous donner la parole, sans plus attendre, nous avons aussi le plaisir ce matin d'avoir Bruno Vigoureux, notre expert en gastronomie. Mais oui, il est bien là, encore tout bronzé de son long périple aux antipodes. Bonjour Bruno, ça fait plaisir de vous revoir.
Yaorana, Jacqueline.
Ah, alors, traduisez-moi.
Ah oui, je vais vous expliquer, parce que, excusez-moi, je suis encore sous le choc, oui. Le choc, car je reviens, comme vous venez de le dire, des antipodes, plus précisément de Polynésie, où j'ai eu l'immense privilège de pouvoir aller. Et Yaorana veut tout simplement dire bonjour. Alors,
le vénard.
Hein. Absolument. Alors, Yaorana à tous. J'ai découvert un pays fantastique avec des gens d'une incroyable gentillesse, oui. J'ai vraiment tout adoré, oui, tout, et bien entendu, la cuisine polynésienne. Je me suis régalé. Alors, autant vous dire qu'il n'y a plus un seul poisson dans le Pacifique Sud, tant j'en ai mangé. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Alors, aujourd'hui, vous vous en doutez, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter une recette locale. Du thon cru au lait de coco. Alors, bien sûr, autant vous le dire tout de suite, ce sera beaucoup moins exotique que sur l'île de Mouréa, qui est juste en face celle de Tahiti, où j'ai mangé ce plat. Parce que là-bas, voyez-vous, on ramasse les noix de coco sur la mer ou par terre. Là-bas, on ouvre les noix de coco avec une machette ou un bâton. On la râpe pour en extraire le lait de coco. Là-bas, on rince le poisson à l'eau de mer. Évidemment, ici, ce n'est pas tout à fait pareil. La noix de coco devient de la crème de coco qu'on trouve en grande surface très facilement. Et l'eau de mer, l'eau du Pacifique, bah, c'est de l'eau du robinet ou avec du sel. Oui, c'est moins ambiance, mais je vous assure que ce plat reste tout de même très agréable. On va donc faire cette entrée, c'est donc une entrée pour 4 personnes. Il vous faut donc 400 g de thon rouge ou blanc, comme vous voulez. N'hésitez surtout pas à le commander à votre poissonnier, c'est beaucoup plus prudent. De la crème de coco entre 40, 30, 50 centilitres. Vous voyez, un concombre, deux gousses d'ail, deux ou trois, du gingembre râpé, des petits oignons nouveaux, des citrons verts pressés, n'hésitez pas, vous pouvez en mettre 4-5, du sel et du poivre. Donc pour commencer, vous coupez votre thon en gros dés, puis vous le rincez à l'eau salée, sauf si vous habitez au bord de la mer, vous pouvez le rincer à l'eau de mer, et vous le mettez dans un saladier. Vous coupez votre concombre en rondelles, pas trop fines, pour avoir du croquant, et vous les recoupez ensuite les rondelles en deux, et vous les mettez avec le poisson. Vous râpez le gingembre au-dessus du saladier, vous pelez vos gousses d'ail, vous les écrasez, vous les mettez avec le poisson, vous pressez les citrons au-dessus du saladier, vous émincez les bouts verts des petits oignons, vous salez et poivrez. Pour finir, vous ajoutez naturellement la crème de coco, vous mélangez et naturellement vous rectifiez l'assaisonnement. Vous avez sûrement remarqué, Jacqueline, que je n'ai pas donné de quantité très précise comme je le fais d'habitude pour les autres recettes. Tout simplement parce que ce plat se fait comme ça, naturellement. En fait, c'est à vous de voir. Avec plus ou moins de gingembre, avec plus ou moins de citron, avec plus ou moins d'ail ou de crème de coco. N'hésitez surtout pas à goûter. L'important est de vous faire plaisir. Vous versez donc dans des petits bols et vous verrez, vous allez épater vos invités. Vous avez même le droit, si ça vous fait plaisir, de servir en tongs et en short ou avec un pareo si vous voulez être dans l'ambiance. Bien sûr, c'est encore meilleur quand vous dégustez ce plat, comme je l'ai fait au bord d'un lagon avec une eau couleur turquoise splendide, avec les raies ou les requins à pointe noire, totalement inoffensifs, rassurez-vous, qui glissent devant vous. En tout cas, vous voyez, il n'y a pas plus simple comme plat. Cette recette peut se préparer un petit peu à l'avance si vous le souhaitez. Et c'est vraiment très bon. Voilà, Jacqueline. Maintenant, je vous dis maruru pour m'avoir écouté, ce qui veut dire merci. Vous l'aurez compris. Et je vous dis nana. Au revoir et à la prochaine fois. Nana.
Merci beaucoup Bruno pour cette recette pleine d'exotisme. J'ai retenu hein, le pareo ou le short pour la déguster. Vous n'avez pas prévu de repartir tout de suite Bruno?
Pas tout de suite, mais bon. D'y retourner, c'est pas impossible.
Donc je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir Bruno.
Au revoir,
merci.
Bonne émission.
Merci.
Écoutez IDFM en DAB+. Sur toute l'Île-de-France.
C'est l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Et ce matin, je suis en compagnie de Frédéric Nouchi, fondateur et président de Aliseos, un bureau d'études spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et collectivités à l'amélioration des performances de leurs infrastructures. Ça y est, je commence à bafouiller. Francesca Maragliano, fondatrice de Hello Cake by Francesca, une activité de cours particulier de cuisine et de pâtisserie. Julia Martinez, président fondateur de ALMB Group, une solution clé en main pour ceux qui utilisent des véhicules électriques. Et maintenant, je m'adresse à vous, Frédéric Nouchi. Donc, je suis ravie de vous accueillir.
Merci, Jacqueline.
Frédéric, les objets connectés sont partout et le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. On l'appelle l'IoT, traduisez Internet of Things, en quelque sorte la matérialisation d'Internet dans notre monde réel. Est-ce que j'ai bien traduit?
C'est bien ça, effectivement. Par IoT, par objet connecté, on entend tout type d'objet qui est raccordé à Internet et qui, par ce biais, est capable de communiquer avec une personne ou avec d'autres objets. C'est comme ça qu'on va qualifier l'ensemble des objets connectés qui sont dans notre vie au quotidien, mais qui désormais s'ouvre en tout cas au monde professionnel, puisqu'on a beaucoup entendu parler de domotique dans notre vie quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, cette domotique se développe à l'échelle des entreprises et des collectivités, et c'est dans ce registre que nous
agissons,
effectivement.
Oui. Alors, sans vouloir faire de pub, c'est la fameuse Alexa, par exemple, qui obéit au doigt et à l'œil, c'est ça?
Effectivement, donc là, c'est le mode, on va dire, simple et appliqué et répétable, en fait, pour un particulier, pour une maison. Maintenant, dès qu'on passe dans l'univers des bâtiments, des villes, c'est évidemment beaucoup plus complexe qu'une consigne orale.
Bien sûr. Donc, vous avez choisi de mettre cette technologie au service des entreprises et collectivités. Donc, expliquez-nous donc comment vous procédez, vos objectifs, peut-être même nous donner des exemples.
Oui, absolument. Absolument. Eh bien, écoutez, tout d'abord, peut-être la raison pour laquelle nous avons créé cette société, la société Aliseos, elle est partie d'un constat, c'est que cet univers des objets connectés apporte des gains et des bénéfices très nombreux. Des bénéfices sur le plan économique, parce que on est plus efficient en étant réactif. Plus écologique également, puisque ces objets connectés permettent de réguler et de maîtriser sa consommation énergétique, notamment. C'est un des axes. Des gains également en termes de renforcement de la sécurité des hommes, la sécurité des bâtiments et des villes. Et puis également une carte énorme à jouer dans le domaine de la RSE, puisque dans l'amélioration du confort et de la qualité de vie au travail, les objets connectés ont là aussi leur intérêt.
Toute leur...
Et une fois, après avoir pris conscience de ces avantages, de ces gains, nous avons constaté qu'effectivement les solutions étaient très nombreuses. On parle de plus de 500 acteurs en France. Et on s'est mis dans la tête, dans la peau d'un dirigeant d'entreprise ou d'un responsable de collectivité. Et on s'est demandé finalement comment identifier, comment savoir quelle est la solution la plus adaptée à ses propres besoins. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Aliseos, où finalement nous avons cette vocation d'explorer les solutions existantes à un niveau 2, c'est-à-dire qu'on échange directement avec les départements R&D de nos partenaires. On a plus de 100 partenaires technologiques aujourd'hui qui nous permettent de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Et dès lors qu'on intervient donc chez nos clients, eh bien après un premier état des lieux, on identifie des cas d'usage qui vont pouvoir être mis en place pour améliorer la performance des bâtiments, des infrastructures. Et dès lors, à partir de notre connaissance du marché, nous sommes en mesure de préconiser et d'accompagner le client dans le choix de la solution la plus adaptée à ses besoins.
Frédéric Nouchi, vous dites nous, donc oui, parce que en fait vous êtes cofondateur,
oui,
hein, c'est ça, vous avez un cofondateur, je vous laisse nous dire son nom.
Effectivement, donc c'est Christophe van Pepperstraat, oui, qui est donc mon associé et directeur technique de la société, et qui a cette vocation à travailler avec tous nos partenaires, aller vraiment explorer, trouver les solutions les plus pertinentes, et surtout avec nos ingénieurs également, certifier, c'est-à-dire valider les options, les fonctions qui sont couvertes par ces solutions, que ça soit des capteurs, que ça soit des logiciels, puisqu'il faut des logiciels.
Oui, on va en parler des capteurs.
Tout ça, effectivement.
Bien sûr. Et alors, juste aussi une petite, un petit aparté. Je vois qu'au niveau parcours, académique et puis professionnel, vous n'étiez pas du tout dans ce domaine, puisque vous avez fait un diplôme d'études comptables et financières et puis un master ressources humaines et SEC. Hein.
Absolument.
Et ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de créer une envie vraiment de créer une entreprise, peut-être?
Bah écoutez, après avoir exercé le métier de directeur administratif et financier pendant plus de 20 ans, j'ai eu à cœur de lancer ma propre entreprise. Et passionné de technologie et d'innovation, ce domaine s'est rapidement imposé. Quand mon associé Christophe m'a présenté ce sujet, on le suivait chacun de notre côté finalement depuis un certain nombre d'années, et donc il était devenu évident pour nous de nous investir dans cette démarche pour accompagner aussi l'économie de manière générale. C'est encore plus facile, ayant occupé ce poste, de savoir ce dont les entreprises ont besoin en termes d'économie, en termes de régulation et d'obligations également légales par rapport aux solutions que peuvent apporter les objets connectés.
Oui, un choix d'autant plus valable aujourd'hui qu'avec les normes européennes vis-à-vis de la RSE, c'est presque une obligation d'en passer par là.
Et effectivement, il y a les réglementations autour de la RSE qui sont en train de redescendre progressivement sur des entreprises de plus petite taille. Pour l'instant, on parle plutôt des entreprises des groupes,
oui,
hein, plutôt
oui,
de grande taille. Et puis, la réglementation comprend désormais aussi ce qu'on appelle le décret tertiaire. Et le décret tertiaire est un décret qui a été voté en 2020 et qui oblige toute entreprise et toute collectivité qui a plus de 1000 mètres carrés de surface tertiaire de doter son bâtiment déjà d'une gestion technique du bâtiment, donc d'un logiciel, et surtout derrière, de réaliser des économies concrètes de 40% de baisse de consommation énergétique d'ici 2030, donc ça vient très vite, une baisse de 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Et donc derrière ça, évidemment, on pense tout d'abord à isoler les bâtiments, à changer les fenêtres, mais aujourd'hui ça ne suffit
ça
plus.
Suffit plus.
Et c'est là où effectivement les objets connectés viennent en renfort de ces dispositifs coûteux et auxquels évidemment on va penser dans dans un premier temps. Et grâce à ces technologies, et la démonstration a déjà été faite, des collectivités ou des entreprises ont déjà réalisé jusqu'à 25% d'économies d'énergie uniquement en mettant en place un système de monitoring de leur consommation énergétique.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Ces objectifs de 40 et 50% sont réalisables?
Oui, tout à fait. Il y a vraiment aujourd'hui des leviers qui existent et qui sont relativement simples finalement à mettre en place et pas forcément coûteux. C'est-à-dire que quand on parle de nouvelles technologies, on a souvent en tête des coûts inaccessibles, etc. Pas du tout. Un capteur de température, c'est 100 à 200 euros. Vous voyez, on part sur des bases qui sont vraiment très accessibles et qui permettent assez rapidement de générer des économies.
C'est ça, des retours sur investissement faciles.
Absolument.
Donc vous en parlez, donc dans l'univers de l'Internet des objets, les capteurs jouent un rôle essentiel. Alors vous nous avez expliqué que vous faites un état des lieux, vous rédigez un rapport en disant à l'entreprise, voilà, si nous faisons telle et telle installation, vous pouvez avoir un gain de... Et dans ce cas-là, vous passez par des entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire.
Exactement. C'est-à-dire que nous n'avons pas la prétention de connaître tous les métiers du bâtiment. Et donc, nous sommes entourés de partenaires, experts que nous sollicitons pour le niveau expertise métier. Et à partir de cette expertise, derrière, nous bâtissons la solution et les orientations à base d'objets connectés pour permettre cette régulation et cette optimisation. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, sur notre première approche, on va faire un état des lieux, on va déjà identifier les cas d'usage, on appelle ça les pépites finalement. On va identifier les pépites qui vont générer des profits dans l'avenir et réaliser finalement un cahier des charges qui va reprendre l'ensemble des pistes que l'on va ensuite mettre en place en accompagnement avec nos clients.
C'est pour ça que vous dites que vous faites des préconisations de solutions pertinentes et agnostiques, c'est-à-dire c'est vous n'êtes marié avec personne.
Exactement, et c'est vraiment ça aussi notre force. Et on est la première société d'ingénierie en France en fait à avoir cette approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui veut se doter de technologies connectées va avoir le réflexe d'aller voir son mainteneur habituel ou son intégrateur habituel. Et ces sociétés, bien souvent, n'ont pas exploré l'ensemble des possibilités qui existent sur le marché, et par conséquent quand le décideur ou le responsable de collectivité aura la solution que va proposer son interlocuteur historique. Vraiment, notre approche à nous, c'est vraiment d'avoir ce recul, cette capacité à comparer les solutions qui existent sur le marché pour permettre d'assurer à notre client qu'il aura la solution la plus adaptée. Et c'est ce côté agnostique, effectivement, que vous soulignez, qui est notre force aujourd'hui, notre valeur ajoutée.
Alors, est-ce que vous pouvez, vous nous avez donné comme ça des exemples, mais est-ce que vous pouvez nous citer un cas d'école que vous avez traité récemment?
Bien sûr, bien sûr. Donc, nous avons travaillé pour une grande entreprise du Val d'Oise et même mondiale, puisqu'il s'agit de Louis Vuitton, pour qui nous avons réalisé deux missions. Une première mission autour de leur environnement fonctionnel du bâtiment. Donc, on parle de chauffage, de ventilation, de climatisation. Et au travers de l'audit que nous avons réalisé, nous avons fait une analyse déjà de l'obsolescence des installations en place, et derrière nous avons rédigé un cahier des charges qui a permis dans lequel nous avons inclus finalement des pistes d'innovation permettant derrière d'améliorer la maintenance prédictive, mais également d'aller chercher des économies d'énergie dans le fonctionnement au quotidien des bâtiments. Donc ça, c'est la première mission que nous avons réalisée pour eux.
Vous avez prononcé un mot important, l'obsolescence. Alors, est-ce qu'elle existe dans les capteurs?
Oui, elle existe, effectivement. Elle existe par rapport à la génération précédente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capteurs disponibles sur le marché ont une durée de vie beaucoup plus longue, et notamment en termes de batterie, en termes d'autonomie des batteries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi la révolution dans le monde de l'IoT, dans le monde connecté, c'est que désormais, il n'est plus nécessaire de faire courir un câble dans tout l'entrepôt pour aller placer un capteur à un endroit stratégique. Désormais, les solutions de communication entre capteurs se font sans fil et permettent donc une implantation beaucoup plus simple et un déploiement beaucoup plus facile aussi.
Bon, et puis là, vous me tendez une nouvelle perche parce que je me demandais quels sont les inconvénients de ces capteurs et je pensais moi à par exemple une panne d'électricité, mais bon, c'est donc c'est pas un problème.
En fait, c'est pas réellement un problème. La panne, évidemment, elle est toujours possible et heureusement, elle arrive quand même de moins en moins par les temps qui courent. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la limite ou les problèmes qu'on pourrait rencontrer pour être liés aux batteries. Mais les batteries aujourd'hui durent 5 à 10 ans suivant la fréquence d'envoi de données, hein, parce qu'en fait un capteur ça envoie ce qu'on appelle un paquet de données et donc si vous avez une fréquence d'envoi toutes les heures ou tous les jours, forcément la batterie va s'user plus ou moins vite. Mais aujourd'hui la limite n'est pas là, la limite je dirais qui existait, puisque là aussi une solution existe désormais, c'était aussi sur l'aspect cybersécurité. C'est-à-dire que nous avons une grosse sensibilisation à faire sur cet aspect-là, puisque un objet, à partir du moment où il est connecté à Internet, il est connecté à l'entreprise, donc ça représente potentiellement une faille.
Il peut être hacké.
Exactement. Et ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il existe désormais des solutions pour encapsuler les données dès le départ, dès le capteur, et de la transporter de manière cryptée jusqu'à son site d'exploitation. Et donc désormais, on est en capacité de mettre en place des systèmes connectés et protégés en même temps.
Alors, vous nous disiez qu'un capteur, ça n'est pas très cher, hein, de l'ordre de 100 euros. Mais bien évidemment, quand vous faites une installation, comme vous l'avez cité chez Louis Vuitton, il faut beaucoup, beaucoup de capteurs, j'imagine.
Effectivement, mais là encore, on parlait justement tout à l'heure d'obsolescence. On parle aussi de notion de low-tech, donc des produits, des capteurs, on va dire, de première génération. Et lorsqu'on intervient chez un client, c'est pas pour remettre tout à plat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie cohabitation possible entre la low-tech et les high-tech. Et donc, dans les high-tech, ce sont ces nouveaux capteurs dont on parle, où on va les préconiser, mais uniquement sur les secteurs et les zones stratégiques pour améliorer la performance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer la totalité des capteurs, et c'est effectivement ce qui s'est passé chez notre client, où on a préconisé des emplacements stratégiques pour mettre en place un certain nombre de capteurs visant à améliorer la performance du pilotage du bâtiment.
Est-ce que c'est ça que l'on appelle la smart ou le smart building?
C'est absolument ça.
Smart city.
Exactement.
Également.
C'est la grande famille du smart building et du smart city quand on s'adresse à une collectivité qui a elle-même des bâtiments. Mais effectivement, c'est bien ça le domaine dont on parle.
Et alors, ce retour sur investissement par rapport à l'installation, il faut l'attendre au bout de combien de temps?
Eh bien, je dirais que avec la montée des prix de l'énergie que l'on a connue cette année, le retour sur investissement est de plus en plus rapide. Où finalement, on était sur 2-3 ans, bah aujourd'hui sur un an ou deux, on est assez rapidement sur un retour d'investissement concret et réel.
Alors, à vous entendre, on a le sentiment que tout le monde va faire appel à vous.
Eh bien, écoutez, c'est effectivement notre volonté et notre souhait d'accompagner les acteurs qui ont ces besoins. Donc, je ne cache pas que c'est effectivement les sollicitations que nous avons actuellement tournent autour de cette problématique, puisque là, il faut vraiment agir et agir rapidement pour maîtriser cette consommation énergétique. Donc, oui, mais après, la vocation et la nécessité, et je vous remercie d'ailleurs de nous inviter aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaître ces solutions, c'est de faire savoir qu'il est possible et que voilà, nous sommes là aussi pour démystifier finalement cet environnement qui peut sembler un peu complexe, qui ne l'est pas du tout. En fait, simplement, il faut avoir la bonne connaissance, le bon support pour trouver rapidement la solution la plus adaptée.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça existe, mais on en ignore tous les bienfaits.
Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et on en ignore aussi la simplicité d'accès. On se fait toujours un univers de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est normal. Mais aujourd'hui, voilà, notre volonté, c'est vraiment ça. C'est de démocratiser cet univers de l'IoT, l'Internet des objets.
Et dans une volonté de vraie sûreté, puisque c'est peut-être ça aussi qui peut être le frein pour certaines entreprises.
Effectivement, ça a pu être un frein à une époque. Dans les entreprises, souvent, on a la crainte que
connecté, on se dit ça y est.
Exactement, on peut rentrer dans l'entreprise. Donc ça a été la crainte à une époque où on se disait, par une caméra de surveillance, on peut rentrer dans le serveur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a cette capacité aussi à créer des réseaux informatiques qui soient déconnectés du réseau principal de l'entreprise. Donc ce qui permet d'avoir un réseau sécurisé et indépendant du réseau principal de l'entreprise, et puis derrière d'avoir sa propre sécurité cyber pour l'infrastructure propre de l'entreprise.
Aujourd'hui, Frédéric Nouchi, pour aller plus loin et plus vite peut-être, vous envisagez une levée de fonds?
Effectivement, effectivement, nous sommes en phase de levée de fonds actuellement, puisque le marché est très vaste. Donc on a commencé, nous, hein, évidemment, à explorer et on a identifié déjà des solutions pertinentes. Mais notre volonté est d'aller encore plus loin et donc d'explorer encore plus les solutions existantes et en même temps de répondre aussi à la demande qui ne fait que grandir pour accompagner ces acteurs économiques dans cette transition écologique.
Alors j'ai pu voir après que je vous ai invité l'un et l'autre avec Julien, c'était pas du tout prévu, mais voilà, c'est le hasard qui fait bien les choses. J'ai vu que vous faisiez tous les deux, on y reviendra pour Julien bien sûr, vous faites partie des lauréats de la session Equitender à la Turbine. Quelques mots sur cette session?
Eh bien écoutez, cette session a été un moment d'échange toujours très intéressant avec des investisseurs, avec des fonds, des venture capital ou encore des business angels. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de présenter notre projet, de percevoir comment il est ressenti auprès des investisseurs. Et effectivement, c'est très encourageant parce que le concept est toujours bien perçu. Et derrière, ça nous permet de voilà d'envisager l'avenir et la croissance avec beaucoup de
sérénité,
d'optimisme.
On vous le souhaite, on vous le souhaite en tout cas. Et alors une dernière question, j'ai pu voir aussi que vous aviez désormais une web TV.
Oui, effectivement, on a cette particularité également qui est partie d'un constat, c'est que le domaine de l'IoT n'est pas très connu, hein, on le disait tout à l'heure, à la fois des décideurs et du monde de l'entreprise et des collectivités. Et donc on s'est dit, comment porter en fait la parole auprès de ces acteurs? Et nous avons décidé de créer la première web TV dédiée à l'IoT dans laquelle nous allons présenté et nous avons commencé puisque la première émission a été diffusée il y a 2 semaines de cela et au travers de ces émissions nous allons faire parler de l'IoT, montrer les cas d'usage qui sont possibles de mettre en place, quels sont les avantages, les gains et quels sont aussi les points de convergence entre les briques technologiques dans un bâtiment puisque c'est un des deuxièmes constats qu'on a pu faire lors de notre établissement de création d'entreprise, c'est que finalement les objets connectés fonctionnaient par silos. Nous avions le domaine du chauffage, ventilation, clim qui restait indépendant de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès. Et aujourd'hui, cette nouvelle ère qui s'ouvre à l'IoT passe par la convergence, passe par l'interaction entre ces briques pour les rendre encore plus performantes. Et c'est vraiment là aussi notre ADN, c'est de faire communiquer, puisqu'on a cette polyvalence. Hein, on couvre aussi bien les aspects sûreté, donc vidéosurveillance, contrôle d'accès, contrôle d'intrusion, que les aspects fonctionnels d'un bâtiment ou encore l'optimisation de la gestion de bâtiments, de salles de réunion. Donc c'est vraiment au travers de cette convergence et c'est ce que l'on veut mettre en avant sur cette chaîne. Donc on la trouve sur YouTube, hein, la chaîne s'appelle IoT TV by Aliseos et l'émission s'appelle 100% IoT.
Très bien, mais écoutez, ce sont des informations qui se retrouveront sur le podcast et si on veut vous joindre, si on veut faire appel à vous, Frédéric Nouchi, à votre associé, que faut-il faire?
Eh bien c'est tout simple, on vous invite à rejoindre notre site web.
Oui.
Donc il s'appelle www.alizeos.com.
Voilà, très simplement.
Et la fiche de contact vous mettra en relation avec nous et avec grand plaisir on étudiera vos besoins.
Oui, parce que à vous entendre, on sent que c'est un marché qui ne demande qu'à être investi.
Absolument, à être connu et derrière les solutions sont là et il suffit de les mettre à la portée des utilisateurs.
Merci beaucoup Frédéric Nouchi. Alors j'ai voulu aussi vous donner la parole en premier parce qu'en préparant l'émission, je me suis aperçue qu'en fait il y avait des connexions avec Julien, peut-être même avec Francesca, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, ça fait un fil rouge dans l'émission.
C'est parfait. Merci.
Merci Jacqueline. Beaucoup Frédéric pour cette mise au point très éclairante. On retiendra que Aliseos permet des solutions novatrices et qui permettent de sortir des sentiers battus. Merci, on marque une pause avant de retrouver Francesca. À tout de suite. IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct. Et ce matin, nous parlons d'objets connectés, de cuisine et de pâtisserie et de bornes électriques. Et avec moi dans le studio, Frédéric Nouchi de l'entreprise Aliseos. Francesca, Hello, My Cake by Francesca et Julien Martinez, ALMB. Et je me tourne vers vous, Francesca Maragliano. Donc, merci d'être venue parce que je viens d'apprendre que j'étais persuadée que vous habitiez dans le Val d'Oise, mais en fait, vous venez du 16e. Donc, oui. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, Francesca, avez-vous toujours donné des cours de cuisine?
Non. J'ai étudié droit, mais j'étais toujours très passionnée de cuisine, et comme tout le monde dans ma famille. Donc, j'ai suivi beaucoup de cours de cuisine en Italie et aussi à Paris, où j'ai fait l'école de pâtisserie de Cordon Bleu. Mmh. Et après ça, j'ai décidé de partager ma passion et mon savoir avec tout le monde. Et donc, je donne des cours de cuisine chez moi,
oui.
Tous les jours sauf les lundis. Et donc, les cours ils sont dédiés à les personnes qui aiment bien manger.
Mmh. Ce qui doit être votre cas, vous devez aimer bien manger aussi,
oui.
Hein, quand on fait la cuisine.
Oui, elles sont tout est fait maison, saine. Je cherche de faire des recettes équilibrées, mm-hmm. Utilisant des produits de saison. Et aussi, les recettes, elles sont structurées afin de pouvoir facilement répliquer les plats chez soi à la maison.
C'est ça, il n'y a pas de manipulation compliquée, ce qui fait qu'on peut vraiment les intégrer.
Oui, ils sont très simple et donc c'est, j'explique tout et je donne la recette et nous faisons tout ensemble. Mm-hmm. Par exemple, pour, je ne sais pas, la quiche, parce que j'ai fait des cours de cuisine italienne et française pour la quiche, nous faisons ensemble aussi la pâte et donc c'est tout frais, j'achète tous les ingrédients les jours avant ou, moi, ou même les jours même quand j'ai fait les poissons.
Oui.
Et donc c'est tout prêt, tout facile,
tout est frais.
Tout est frais, oui, et j'ai fourni tous les ingrédients et les outils et les cours ils sont il y a deux possibilités quand nous faisons des plats comme la quiche, la parmesan d'aubergine, la cheesecake, les tiramisu. Oh là et des là, choses
on
comme
a
ça oui. Chacun s'en va avec son plat, donc son tiramisu et tout ça. Sinon, si nous faisons des pâtes, des risottos, des autres choses, nous déjeunons ensemble avec un verre de vin et nous faisons des conversations. Ouais. Donc, c'est aussi une voie très agréable de connaître des personnes.
C'est ça, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est transmettre et partager.
Oui, c'est ça.
Complètement.
Oui,
oui.
Alors, il n'y a pas de secret.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de secret et j'aime bien donner toutes les indications très précises.
Même le petit truc que...
Oui, voilà, c'est ça, la dimension du plat, de la moule, de toutes les choses. Aussi, tous les ingrédients italiens où vous pouvez les trouver, et tout ça, oui.
Francesca, j'adore votre accent. Vous êtes de quelle région en Italie?
De Milan.
De Milan, oui. Ouais. Alors, donner des cours chez soi, ça veut dire qu'il faut quand même de l'espace?
Oui, j'ai une très belle cuisine. Et donc oui, je vais accueillir 4 personnes habituellement maximum,
oui.
Parce que je veux qu'il ait un peu une façon personnelle. Donc c'est pas seulement de donner la recette et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et l'année dernière, surtout après le Covid, je pense que ça a aidé beaucoup de personnes d'être pas toute seule chez eux, mais de connaître des autres personnes avec la même passion. Et donc, oui, beaucoup.
On a bien vu, en effet, qu'avec le Covid, les gens se sont remis à cuisiner.
Oui.
Parce que c'était, on avait du temps, donc on pouvait s'y mettre. Alors, comment trouvez-vous quelles sont les personnes qui viennent prendre des cours chez vous?
Ah, donc, il y a beaucoup de différentes nationalités. Parce que j'ai une clientèle qui est très internationale grâce à le fait que mes enfants ils vont à une école internationale.
Oui.
Et donc j'ai des clients qui sont japonaises, chinoises, espagnoles, anglais, français,
oui,
aussi.
C'est très éclectique.
Oui, oui, et ça c'est aussi très joli. Et cette mois j'ai fait des cours de cuisine avec des copines espagnol et donc nous avons fait la tortilla de patata.
Ah oui.
Et oui, j'ai fait après.
Je vais vous voir là. Chaque fois que j'ai essayé, j'ai pas.
Ah non, non, oui. Vous devez venir et après vous étiez capable de les faire. Après, j'ai fait aussi un cours avec une copine chinoise. Nous avons préparé les raviolis.
Oui, c'est.
Et donc c'est une façon
c'est un
pour.
Long,
oui,
hein.
oui. Et mais nous avons fait les raviolis à partir de la pâte.
Mm-hmm, bien sûr, et vous donc, avez fait vous-même la pâte.
Oui,
et puis,
tout. Et c'est vraiment pour qu'est-ce que je vais faire pour le risotto. Tout le monde pense que le risotto c'est très difficile à cuisiner, mais c'est pas très difficile. Si vous savez les trous
c'est
pour
ça,
les faire.
C'est de la patience.
Oui, c'est un peu de patience, mais c'est pas difficile.
Enfin,
il y a beaucoup de plats qui sont plus difficiles, mais quand je vous explique tout, finalement, vous pouvez les faire chez vous. Et j'ai beaucoup de clients qui me vont envoyer aussi hier soir la photo avec plats, les risottos. Ils sont très heureux de pouvoir les faire. Et toute la famille va déguster les plats qui sont bons.
Oui, qui sont faits maison.
Oui, surtout. C'est tout fait maison, oui.
Et donc, comment procédez-vous? C'est-à-dire que vous avez un programme en disant cette semaine, je fais telle, telle recette, ou c'est à la demande de...
Alors,
vos...
je peux faire à la demande. Si quelqu'un elle veut venir, je peux organiser. J'ai des personnes qui vont faire les cours entre copines. Mmh. Et donc, ils me bloquent la matinée et nous allons choisir ensemble qu'est-ce que nous allons cuisiner. Ou sinon, j'ai mon site Instagram, Hello Cake by Francesca, et je vais publier là-bas tous les cours, les informations avec les prix, tout ce que nous allons cuisiner, et je le vais publier plus ou moins chaque mois. Et je suis les vacances scolaires. Oui. Donc j'arrête jeudi et je vais reprendre le 8 novembre. Oui. Avec tous les cours de cuisine. Oui.
Donc vous nous disiez que c'est vous qui faites tous les achats.
Oui.
Donc ça vous demande quand même une grande organisation, parce que tous les jours vous devez vous fournir en produits frais.
Oui, ça c'est difficile. Mmh. Et donc parce que j'aime bien fournir tous les ingrédients très très frais, et surtout si j'arrive à les faire des saisons aussi. Et donc oui, le matin j'organise la cuisine parce que je donne tous les outils, les choses pour cuisiner, l'établier, tout. Après, chacun il va partir avec son propre plat, avec son bag, son sac. Donc, c'est tout fourni. Donc, je vais préparer toute la table. Après, nous allons faire tous les cours. Après, je vais nettoyer cuisine.
Oui,
et après, l'après-midi, habituellement, je fais les cours pour le lendemain. Donc, oui, ça fait beaucoup, mais parce que c'est une chose que j'aime. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas très fatigant. Je me réveille très tôt parce que j'aime les faire, donc oui,
c'est ça c'est une passion.
Oui, c'est une passion. Oui, oui, c'est ça.
Donc combien faut-il compter pour le prix d'un cours?
Ça dépend vraiment, et sur les sites internet
une
tout
c'est
entre habituellement c'est le maximum que j'ai fait dans les passés c'était 60.
Oui.
Mais c'était un menu complet de poisson, donc c'était un entrée, un plat principal et un dessert. Mmh. Donc,
oui, 60 euros, c'est pas très élevé quand on sait que on repart avec son plat et
sinon déjeuner ensemble avec un verre de vin. Oui, oui, non, les prix ils sont très très convenients.
Oui, c'est le prix d'un restaurant, monde. Quoi, si on déjeune à l'extérieur.
Ah oui. Et les poissons, je vais acheter chez les poissonneries au marché de Passy et donc oui, c'est
extra frais.
Oui, oui, oui.
Alors ce matin, nous recevons deux ingénieurs en objets connectés. Et ma question, Francesca, vous-même êtes-vous connectée? C'est-à-dire, avez-vous un four, un frigidaire,
un mixeur? Non, pas pour le moment. Pas moi. Non, c'est moi
pas
que
ça.
que je dois.
C'est vous qui êtes connecté.
Oui, et c'est les téléphones avec tous les alarmes qu'ils vont sonner en continu pour me souvenir que j'ai quelque chose dans les fours ou des choses comme ça.
Oui, Julia Martinez.
Une voiture électrique peut-être pour aller faire les courses.
Ah oui.
Voilà, Julien place va vous vendre une borne avant la fin de l'émission. Non, mais écoutez, Francesca, ça donne vraiment envie de participer à vos cours. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez nous quitter un petit peu plus tôt parce que vous avez un cours. Quelle recette faites-vous aujourd'hui?
C'est la carbonara aujourd'hui.
Ah. Très bien.
Oui.
Oui, c'est une recette délicieuse.
Oui.
Donc, vous faites les pâtes vous-même?
La pâte pour la carbonara, pas, mais j'achète les guanciale chez les italiennes.
Guanciale, c'est
guanciale,
quoi?
Guanciale, c'est les bacon.
Ah, très bien.
C'est les bacon, mais c'est en partie particulier, c'est
la joue.
La joue.
D'accord.
Du porc.
Oui, donc c'est un goût particulier.
Oui, oui, c'est un
c'est
parfum
tendre.
Particulier, oui. Et mais après, il va être très croustillant, et il donc c'est avec les œufs et les pecorino, qui c'est un fromage comme les parmesans, mais beaucoup plus savoureux et âgé, et qui va donner les goûts. Et donc, il n'y a pas de crème, rien.
Oui, c'est
seulement les bacon, les guanciale, les pecorino et les œufs. C'est
oeufs,
tout.
Oui.
Et après, la pâte que vous pouvez choisir. J'ai fait habituellement les spaghetti, mais ça va aussi avec les penne, et ça dépend des goûts. Et après, je suis un peu libérale. Si vous n'aimez pas les spaghettis et vous voulez faire avec les pennes,
oui,
pour moi,
ça, y a pas
ça
de...
va. Oui,
oui.
Et aussi, si vous ne trouvez pas les guanciale, parce que chez vous, il n'y a pas une épicerie italienne.
Mais ça n'a pas un autre nom, guanciale, parce que j'avais jamais entendu ce nom.
Oui, c'est le nom.
C'est très
oui.
particulier.
Oui. Ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, vous devez essayer.
On trouve ça chez les fournisseurs italiens, de
oui,
produits italiens.
Oui, l'épicerie italienne, habituellement, ils l'ont. C'est pas difficile à trouver. Mm-hmm. À Paris, quelquefois aussi, la grande épicerie, il a les guanciale. Mais si vous ne trouvez pas les guanciale, vous voulez faire la carbonara, je vais pas voir, et vous pouvez utiliser les allumettes.
Oui, 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 oui.
Parce que
bien sûr.
En moine, vous pouvez essayer.
Oui, je comprends.
Ce sera pas la même chose, mais
bon,
oui.
Oui,
parce que j'ai vécu ici, après aux États-Unis, et donc maintenant, si je veux faire quelque chose et je trouve pas les précis ingrédients, je dis ok, je vais utiliser
oui,
quelque chose.
Oui, il faut quand même s'adapter.
Oui, s'adapter, oui. Sinon, oui.
Alors, vous nous dites que vous donnez des cours tous les jours, donc ça vous oblige à quand même trouver des gens, 4 personnes
oui,
au moins tous
oui,
les jours.
Oui.
Et cependant, vous avez besoin de trouver encore un public plus large.
Oui, j'aimerais bien. C'est-à-dire que j'ai tous les cours de septembre et octobre étaient
complets.
Oui, oui. Complet. Donc, je suis très contente de ça, mais j'aimerais bien avoir aussi des un public un peu plus large, des Français aussi, s'ils aiment bien d'apprendre la cuisine italienne. Et oui, et je suis aussi disponible de me déplacer pour des
oui,
événements, des choses. Oui, je fais aussi du catering pour des fêtes, des parties. Oui, je le fais. Et aussi des gâteaux sur commande.
Oui, vous nous avez apporté un magnifique tiramisu, donc encore merci. Et est-ce qu'il arrive que vos élèves vous demandent de venir préparer un repas chez elles quand elles ont un événement?
Oui, je le fais.
Et ça,
je
vous aimez
fait.
Bien?
Oui, c'est joli.
Oui.
Et je le fais aussi avant l'été, je prépare des choses chez moi. Je prépare presque tout chez moi, et après, s'il y a de la pâte, des choses comme ça, je les fais cuire là-bas. Donc, j'ai fait des bruschettas, après j'ai fait une salade avec les lentilles, des panna cotta comme dessert, tiramisu, un gâteau comme les fraisiers, plus ou moins comme les fraisiers, et après j'ai fait la pâte avec le pesto. Parce que d'origine, je suis grandie à Milan, mais d'origine, je suis d'un petit village à côté de Gênes.
Oui.
Et donc, le pesto, c'est le plat
traditionnel.
Oui, c'est traditionnel. Le pesto, la focaccia aussi, che c'est très particulière la façon qu'ils vont faire là-bas. Mais c'est bizarre parce qu'en Italie, nous, personne ne va cuisiner, préparer chez eux la pizza ou la focaccia, parce que c'est comme ici, le pain au chocolat ou le croissant.
Oui.
Tout le monde il va acheter, ça ne coûte rien, et c'est très bon, c'est frais, ils vont faire tous les jours. Mais depuis que je suis partie de l'Italie, quelquefois pour moi les plats italiens ils sont comme un câlin, et donc j'ai besoin, et donc maintenant je suis capable de faire aussi les plats qu'habituellement je vais acheter chez les boulangers.
Vous avez besoin de retrouver vraiment le goût d'origine.
Oui, c'est ça.
Alors, une dernière question. Votre besoin aussi, c'est de trouver les matières premières à un prix abordable.
Oui, ça c'est vraiment difficile parce que je peux acheter comme les restaurateurs, parce qu'il y a beaucoup de quantités. Après, je vais pas utiliser parce que je fais des cures vraiment pour particulier, mais très.
Oui, puis comme vous changez de recette tous les jours,
c'est ça. Et donc, les 16e, c'est un peu cher.
C'est un peu cher.
Les achats, mais je préfère.
Vous n'avez pas de possibilité d'avoir accès à des grandes surfaces comme Métro ou.
Pour le moment, pas.
Non, pas. Oui.
Mais c'est
bien.
Quelque chose que j'aimerais
vous,
bien.
Vous,
oui,
vous y
oui
pensez.
J'ai des. Pour les boîtes, des choses comme ça, je vais quelquefois chez des chinoises. Mmh, vous savez, les import-export, qui ont beaucoup de quantités, mais toujours je dois acheter des quantités énormes.
Importantes.
Et donc pour moi, mais je le fais.
C'est ça, parce qu'en fait, vous faites vraiment de A à Z, c'est-à-dire les ingrédients, mais après la personne repart avec, comme vous dites, son emballage, son sac.
Oui, c'est ça.
Très bien. Merci beaucoup Francesca.
Merci à vous,
pour
vous
nous donner,
plaisir.
Je répète, on a faim là maintenant. Je vois mes deux invités qui approuvent. Et merci, ça donne vraiment envie de participer à votre cours. Alors, rappelez-nous comment on peut faire pour
donc,
vous rejoindre.
Donc, c'est sur mon site Instagram, c'est Hello Cake by Francesca. Et il y a des bio, au début, il y a les liens pour s'inscrire au cours de cuisine, ou sinon, vous pouvez envoyer un texto, il y a les mails, tout ça.
Il y a tout. Très bien, mais écoutez, là encore, comme pour Frédéric Nouchi, tout se retrouvera sur le podcast de l'émission.
Oui,
merci infiniment, Francesca,
merci
d'être
beaucoup.
Venue. Merci pour ce témoignage. Et puis, on sent que vous êtes passionnée, donc
oui.
Ça, c'est vraiment agréable.
Merci
à
beaucoup.
Vous. Merci. On marque une nouvelle pause et puis on se retrouve juste après.
Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes, dedans on reste des ados. Il fait si beau le long de la Seine, des couples poussent des landaus. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois.
Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'île de France.
Bon, on a vraiment faim après toutes ces recettes, mais voilà, on est bien dans l'économie en direct et sur IDFM 98.fr. Et ce matin, nous parlons de IoT, nous avons parlé de cuisine italienne et pâtisserie, et nous parlons aussi de bornes de recharge pour véhicules électriques, avec toujours à mes côtés Frédéric Nouchi, fondateur et président, cofondateur, pardon, et président de Aliseos, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et collectivités à l'amélioration des performances de leur infrastructure. Francesca a dû nous quitter parce qu'elle va donner un cours. Et Julien Martinez, président fondateur de ALMB Group, louermaborne.fr et achetermaborne.fr, une solution clé en main pour ceux qui utilisent des véhicules électriques. Alors, nous continuons ce tour de table avec vous, Julien Martinez. Je suis ravie de vous accueillir.
Apparemment.
On s'est rencontrés avant les vacances sur le site de CY Transfer. Non, CY Entreprendre, pardon.
Ah, oui,
voilà.
Turbine, oui.
Et donc, alors que, sans mauvais jeu de mots, le carburant se fait rare, certains d'entre nous pensent peut-être à la voiture électrique. Mais comme je disais au début, un des freins majeurs à ce choix, c'est le déploiement des bornes de recharge.
Tout à fait. J'en ai eu l'exercice ce matin en arrivant.
C'est vrai.
J'ai effectivement cherché une borne de recharge. C'est un exercice qui devient quasiment systématique quand on a un véhicule électrifié maintenant. Et je suis allé me garer dans un parking de la ville.
Parce que vous n'aviez pas eu le temps de charger votre voiture avant de venir.
Si, mais ça devient un réflexe, on se charge tout le temps. Moi, pour ma part, j'ai un véhicule hybride rechargeable, donc en ce moment, le carburant, j'essaie de pas l'utiliser beaucoup. Effectivement, il y avait des bornes dans ce parking, mais des bornes qui n'étaient soit pas fonctionnelles, ce qui est le cas de plus de 30% des bornes aujourd'hui installées en public, et d'autres bornes qui n'avaient pas la bonne connectique, en fait, donc la bonne prise. Donc, j'ai pas pu me charger.
Alors, pourquoi vous dites pas fonctionnel ?
Il y a plusieurs mots dans les bornes publiques aujourd'hui. Le déploiement n'a pas été aussi rapide que ce que l'État le voulait. Et donc, en réalité, on n'a pas atteint les 100 000 bornes
qu'il
souhaitait.
C'est ça, l'État avait promis 100 000 bornes.
On est en réalité aux alentours de 70 000, je crois. Mais sauf que les bornes ne sont pas forcément très bien maintenues. Et donc, on a à peu près 30% des bornes qui ne fonctionnent pas. Donc là, on est sur les bornes publiques. Nous, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on fait. On n'a pas vocation à aller faire de la borne publique, mais effectivement, plutôt proposer une solution où tout un chacun peut s'équiper facilement, à moindre coût, d'une borne, que ce soit un particulier, un professionnel, une collectivité, avec donc une borne qui est une borne Wallbox, de marque Wallbox Charger, qui est une marque espagnole, qui a un très faible taux d'effectuosité puisqu'on est sur de l'ordre de 2%, donc une borne qui est robuste, on parlait d'obsolescence tout à l'heure, qui n'a pas d'obsolescence, qui est vraiment un produit très bien fini. Notre volonté était de proposer du coup en fait la location avec option d'achat, un petit peu en opposition finalement à l'achat. Aujourd'hui, vous achetez un véhicule électrique, vous achetez un véhicule hybride rechargeable, vous avez 2-3 solutions aujourd'hui qui sont soit de charger chez vous sur une prise.
Donc c'est très
une charge très longue. Faut compter à peu près 7 heures pour un véhicule hybride rechargeable et entre 15 et 30 heures pour un véhicule électrique. Donc autant bien calculer vos trajets parce que là vous pouvez pas passer à la pompe pour remettre un peu d'essence. Et derrière vous avez sinon la possibilité d'acheter donc une borne de recharge que vous allez utiliser et où on va être sur des paniers moyens aux alentours de 2000 euros voire plus. C'est une expérience que j'ai fait personnellement qui a du coup donné naissance à ce projet là puisque après avoir sollicité différentes plateformes existantes en achat, je me suis retrouvé que les offres n'étaient même pas très précises en fait. On savait pas trop si ce serait 2000-2500 euros, et je cherchais une solution puisque j'ai un véhicule société qui me permet d'avoir cette flexibilité, de pas dépenser un trop gros budget. Voilà, aujourd'hui vous achetez une borne, vous avez dépensé 5% du prix de votre véhicule, ça fait un surcoût encore par-dessus le surcoût finalement du véhicule électrique par rapport à un thermique. Et donc on voulait proposer une offre qu'on n'a pas trouvé sur le marché, qui était de proposer aux gens de caler finalement le coût de leur borne et l'investissement de la borne sur les mensualités de leur véhicule. Donc vous allez passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique aujourd'hui, vous allez le louer ou l'acheter, vous allez payer des mensualités. L'idée c'était que la borne justement vienne en parallèle de ça. Donc c'est la semaine du salon de l'auto en plus.
Oui, c'est le salon de l'auto.
Très axé sur l'électrique d'ailleurs cette année. J'y serai demain chez notre partenaire Wallbox. Et on a donc conclu qu'il fallait apporter une nouvelle solution au marché, une solution qui permette aux gens, que ce soit pour des raisons financières ou fonctionnelles, d'avoir cette flexibilité-là. Donc aujourd'hui, on a une offre avec la borne, installation comprise, garantie étendue comprise de 5 ans, une offre de location qui va jusqu'à 4 ans, donc vous avez encore un an de garantie derrière quand vous rachetez le produit si vous le souhaitez, qui commence à 39,90 TTC. Et aujourd'hui, la plupart de nos clients particuliers sont à ce tarif-là. Je tiens à le préciser, c'est pas un tarif d'appel qui n'est pas atteignable. On a aujourd'hui la plupart de nos clients particuliers qui sont entre 39 et 45 euros. Ce qui vient fluctuer finalement ce coût, c'est le coût du câble. Aujourd'hui,
oui, c'est le prix d'un plein pour une petite voiture.
Oui, alors j'ai un exercice assez intéressant là-dessus, si vous me permettez justement.
Je vous en prie.
Quelqu'un qui est en thermique et qui veut passer en électrique par exemple aujourd'hui avec les problèmes d'essence. Imaginons que cette personne fait un plein par semaine. Donc aujourd'hui, le plein va lui coûter 80 euros, on va dire, on va faire une moyenne.
Oui, à la fin c'est du vrai. Mois. Quand je disais un plein, c'est pas une fois par mois, c'est plusieurs fois dans la semaine, dans le mois.
Vous allez avoir du coup donc un plein à 80 euros par semaine. À la fin du mois, vous en êtes à 320 euros si on est sur 4 semaines, imaginons. Vous passez sur un véhicule électrique, vous allez avoir un plein qui va vous coûter globalement 10 euros chez vous. Il faut compter un plein et demi pour faire le même nombre de kilomètres qu'un plein thermique, parce qu'une voiture électrique a moins d'autonomie qu'une voiture thermique. Et donc vous allez avoir 15 euros, imaginons, de coûts finalement d'électricité chez vous pour recharger votre voiture et faire le même nombre de kilomètres, ce qui à la fin du mois vous amène à 60 euros au lieu des 300 euros. Si vous rajoutez votre borne à 39, à 40 euros, 50 euros par mois, clairement vous allez gagner 200 euros tous les mois. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, le coût de la vie fait sens en fait. Ouais. La location pour nous était intéressant pour que les gens puissent voir dès le premier mois finalement cet investissement et ce changement en passant du thermique à l'électrique. Aujourd'hui on a œuvré pour avoir un tarif le plus bas possible, notamment pour les particuliers, avec un forfait qui est tout compris, qui a toutes les options et qui a donc cette installation et cette garantie étendue incluse pour qu'il n'y ait pas de surprise et que les gens n'aillent pas courir après leur investissement. Parce que quand vous investissez dans une borne, dans son installation à 2000, 3000 euros, derrière après vous devez le rentabiliser. Et vous, c'est un peu flou d'arriver à voir quand est-ce qu'elle est rentabilisée, comment. Puis si vous passez demain sur une autre source d'énergie, sur de l'éthanol, ou on est sur du thermique ou peu importe, ou vous ne voulez tout simplement pas garder la borne, à la fin de la période de location, on vient la récupérer, on la reconditionne et on la remet sur le marché.
Voilà. Oui, parce que j'ai pu, en préparant l'émission, j'ai vu qu'une borne pouvait répondre à peu près l'équivalent de 600 000 km, c'est ça ?
En toute franchise, on n'a pas forcément le recul aujourd'hui. Vous avez toutes sortes de bornes sur le marché. Vous avez des bornes qui sont des bornes fabriquées en Asie, des bornes fabriquées en Europe, des bornes fabriquées en France. Elles n'ont pas la même conception, potentiellement la même résistance ou la même obsolescence. Donc ça dépend vraiment des bornes. Aujourd'hui, on sait que les bornes que nous, on a fait le choix de vendre, sont des bornes qui... sont une société qui a 7 ans d'existence et les premières bornes qu'ils ont sorties fonctionnent encore. Aujourd'hui on a cette faculté d'avoir un fournisseur qui a des bornes fiables. Donc oui, on peut imaginer qu'une borne que l'on vend aujourd'hui à un client qui la rachèterait à 1 euro symbolique à la fin de sa période de location fonctionnera encore dans 10 ans.
Oui. Le vrai défi, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en parlera peut-être avec d'autres invités. C'est la fabrication de toutes ces bornes, parce que avec la croissance exponentielle des voitures électriques, les matières premières vont être prises d'assaut forcément.
Il y a un vrai sujet aussi avec le réseau électrique. Demain, on veut que tout le monde passe à l'électrique. Le réseau électrique doit tenir.
Complètement. J'ai compris aussi que il allait falloir se dissiper pour ne pas recharger sa borne tous en même temps, pas aux heures de pointe et tout ça.
Il y a une vérité là-dedans. Après, il faut savoir que les gens généralement rechargent leur véhicule la nuit, donc le réseau est quand même beaucoup moins... Frédéric, tu peux en parler. Sera beaucoup moins sollicité. Donc, je pense que c'est finalement un faux problème pour les particuliers, pour les entreprises qui vont utiliser beaucoup d'électrique ou qui vont tirer beaucoup sur le réseau la nuit. Oui, ça peut être un sujet de réduire leur consommation, d'adapter un petit peu leur habitude. Ça, Frédéric peut les aider. Et après, effectivement, un particulier qui charge sa borne chez lui, vous n'allez pas charger tout entièrement votre batterie tous les soirs.
Non.
Suivant comment vous roulez, vous allez charger un petit peu, pas beaucoup. Les bornes qu'on propose permettent d'être programmées, de pouvoir charger à certaines heures de la nuit. Avez tout un... Ce sont des bornes connectées.
C'est là où je voulais en venir. C'est aussi un marché peut-être à développer, non, Frédéric Nouchi?
Clairement, en fait, l'offre que propose Julien aujourd'hui fait partie des offres que l'on peut être amené aussi à proposer aux entreprises, à nos clients.
Oui, qui ont des voitures de société.
Il est clairement identifié parmi nos partenaires et effectivement, ce sont des solutions que l'on aura vocation nous aussi à proposer et venir s'inscrire dans une logique connectée globale. C'est un environnement qui va dans le sens de l'écologie, qui va dans le sens de l'économie aussi. Et donc, c'est tout à fait légitime, effectivement, que cette offre rejoignent également le panel de nos offres, absolument.
Ça paraît évident.
Les entreprises sont très sensibles aujourd'hui, effectivement, notamment pour leur parc automobile, à acquérir un maximum de véhicules propres, hybrides rechargeables ou électriques, ils ont des obligations aussi, hein, légales. Il faut qu'ils renouvellent une certaine partie de leur parc d'ici 2030 pour atteindre justement effectivement un quota de véhicules propres qui leur permettent de respecter la législation. Mais vous avez des établissements publics aussi, par exemple, comme des hôtels. Et là, on a un sujet effectivement qui peut être commun. On travaille aujourd'hui avec beaucoup d'hôtels qui nous sollicitent pour avoir des bornes, parce que demain, ça peut être un critère de non-choix pour quelqu'un d'aller dans un hôtel qui n'a pas de bornes. Vous allez aller dans l'hôtel à côté qui a des bornes.
Bien sûr.
Pour recharger votre véhicule. Les hôtels peuvent monétiser les bornes. Hein, donc, nous, les bornes qu'on installe sont connectées, mais on peut aussi les monétiser. Donc, un hôtel qui va monétiser les bornes pour ses clients va avoir un retour sur rentabilité aussi qui sera beaucoup plus, un retour sur investissement beaucoup plus flagrant par la location, hein, par de l'OPEX et non pas du CAPEX. Mais clairement, les hôtels, par exemple, sont un cas de figure très intéressant. Ils ont aujourd'hui une gestion de leur énergie par rapport à ce qu'ils utilisent. Quand on va voir, la majorité des hôtels qu'on va voir, aujourd'hui, n'ont pas forcément le delta en termes d'électricité disponible par rapport à ce que leur abonnement permet pour s'équiper en borne de façon pérenne. Donc ils vont mettre une borne, deux bornes, trois bornes.
Et là, le décret tertiaire qu'on évoquait tout à l'heure, qui contraint les acteurs du tertiaire, et les hôtels en font partie, les contraint en fait à réduire leur consommation énergétique, va permettre justement de libérer de la capacité pour ces nouveaux services, pour ces nouveaux besoins qui apparaissent sur le... Voilà, donc la solution arrive, rassure-toi, on va trouver le moyen de libérer de l'énergie.
On optimise après.
Vaut mieux que ce soit l'inverse pour que tu puisses justement installer plus de bornes encore.
S'il y a une vraie sensibilisation à faire aujourd'hui.
Ouais. J'ai même lu en préparant le dossier que ces bornes pourraient elles-mêmes alimenter d'autres, quand elles ne sont pas sollicitées, elles pourront alimenter d'autres collectivités à la limite.
Hein. En fait,
c'est un cercle vertueux.
C'est ça, notre partenaire Wallbox Charger, donc, qui est basé à Barcelone en Espagne, a créé une borne qui est une borne à double flux. Donc quand le véhicule a besoin d'être rechargé, la borne va recharger le véhicule.
C'est ça.
Donc quand il reçoit via des panneaux solaires, via de l'énergie qui serait générée par le bâtiment, quelle qu'elle soit, le véhicule resté branché, qui n'est pas utilisé, si le bâtiment a besoin du flux d'énergie, peut servir de batterie finalement au bâtiment, tout à fait. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, il y a aujourd'hui très peu de véhicules qui permettent de le faire.
Oui, c'est pas encore démocratisé,
non,
mais
ça
voilà,
va venir.
C'est.
Oui, ça
va venir. Alors, en juin 2022, le Parlement européen a décidé l'installation d'une borne tous les 60 km, puisque le vrai problème, c'est le maillage du territoire. Est-ce que ça vous paraît réalisable? Julien.
Réalisez-vous, après c'est à quelle échéance?
Oui.
J'ai vu passer dernièrement un article qui parlait des dernières annonces de M. le Président de la République qui était de suite pondéré par un acteur du secteur qui parlait qu'on était plutôt sur de l'ordre de 500 installations par semaine contre les 1500 qu'il devrait y avoir. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'installation, effectivement.
Et c'est quoi le frein à ces installations, principalement?
Honnêtement, je ne saurais pas vous répondre, puisqu'encore une fois, c'est pas notre domaine, nous, de la borne publique à proprement dit, mais je pense qu'il y a différents sujets qui peuvent être, que nous on peut rencontrer chez des clients qui peuvent s'appliquer aussi pour les collectivités et la voie publique. C'est déjà le réseau. Il faut avoir la possibilité de mettre une borne à ces endroits-là et d'avoir finalement l'électricité suffisante, les infrastructures, le personnel, les coûts. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de sujets, en sachant qu'effectivement les bornes sont des fois vandalisées aussi, donc ou défectueuses.
Oui.
Donc il faut revenir aussi sur ces bornes-là qui ont été installées. Enfin, il y a un vrai sujet.
Oui.
D'où la recharge à la maison, à domicile, à l'entreprise, qui va
se
développer.
C'est beaucoup plus fiable.
Parce qu'elle est plus fiable, parce qu'aujourd'hui, elle va permettre de multiplier finalement la recharge. Aujourd'hui, on va se charger chez soi et on viendra avoir une charge d'appoint à l'entreprise ou sur la voie publique.
Oui, parce que le vrai défi, c'est d'avoir des solutions rapides, donc fiables, faciles, et puis qu'elles soient sur des lieux de passage quotidiens.
Tout à fait. On travaille avec des clients particuliers comme des clients professionnels. On vient de boucler du coup un partenariat avec Aramis Auto, notamment sur la concession de Cergy, pour proposer à leurs clients de l'achat ou de la location, puisqu'on fait les deux. On a effectivement louermaborne.fr, mais aussi achetermaborne.fr. On laisse le choix à nos clients. On veut pas les obliger à faire de la location non plus. Chacun choisit ce qu'il décide. On travaille aussi effectivement avec la Chambre des Métiers pour aider les artisans.
Oui, vous avez fait un partenariat hier, je recevais Michel Alexeyev vendredi dernier, qui m'a dit que d'ailleurs il y a eu un tirage au sort et que un heureux élu de propriétaire d'une voiture électrique avait gagné une borne.
Ouais. Tout à fait, on va publier du coup le tirage au sort sur les réseaux incessamment sous peu.
Ouais.
Et du coup on a fait gagner en partenariat avec la Chambre des métiers du Val d'Oise une borne installée d'une valeur de 1000 euros pour un des artisans de la Chambre des métiers. Et là, on va donc proposer une offre à moins 10% pour tous les artisans de la Chambre des métiers d'Île-de-France. Cette fois-ci, on élargit l'Île-de-France pour qu'ils puissent s'équiper et faire leur transition vers une mobilité plus propre.
Alors vous, Julien Martinez, quel serait, bon, si moi par exemple je décide d'acheter une voiture électrique demain, quel est le conseil que vous allez me donner? Est-ce que j'ai intérêt à louer la borne et l'acheter en fin de contrat, ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter tout de suite? Expliquez-moi.
Pour moi, il faut la louer, sinon j'aurais pas fait ce concept-là. Non, pour le coup, oui, je pense que c'est plus intéressant de la louer pour voir justement ce retour sur investissement dès le premier mois. Quand vous allez acheter une borne, vous allez faire un investissement. Aujourd'hui, on fait de la location avec option d'achat. La borne, si vous le décidez, à la fin des 12, 24, 36 ou 48 mois, vous pouvez l'acheter pour un euro symbolique.
C'est ça, il n'y a pas une somme supplémentaire.
Non, on a fait le choix, voilà, à la fin de la période de location, de faire justement ce 1 euro symbolique exprès et de donner la possibilité aux gens, pardon, de ne pas garder la borne. Quelqu'un qui voudrait finalement plus être en électrique peut très bien décider de nous dire venez récupérer la borne. Et voilà, pour moi la location permet d'avoir une meilleure visibilité. Aujourd'hui vous avez des véhicules qui pour le coup coûtent un peu plus cher, ça s'améliore, mais coûtent un peu plus cher qu'un véhicule thermique. Si demain vous rajoutez des investissements supplémentaires pour quelque chose qui se veut une transition et qui clairement n'est pas courant pour tout un chacun, vous savez, ces derniers temps je suis allé charger un petit peu sur des bornes publiques et je vois les gens avec le carburant qui devient un peu plus rare, des gens qui ont des véhicules hybrides rechargeables qui chargeaient pas forcément
aujourd'hui,
les véhicules parce qu'ils ont du thermique, et c'est un peu le problème de l'hybride rechargeable. Quand on a un hybride rechargeable, on a un peu des fois la flemme, quand on n'a pas de borne chez soi, de recharger. Et c'est intéressant de voir les habitudes prises par quelqu'un qui conduit une électrique, qui sait de suite brancher sa voiture, c'est rapide, c'est clair.
Ça vient de réflexe.
Voilà, et c'est des nouvelles habitudes. Et quelqu'un qui a un hybride rechargeable qui, pour le coup, va mettre un peu plus de temps à comprendre comment la borne fonctionne, quelle carte il lui faut, vous voyez. Donc oui, effectivement, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Est-ce que demain, on sera tous 100% électriques? C'est pas forcément ma conviction. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur l'hybride rechargeable, avec demain peut-être du carburant de synthèse qui viendra remplacer un carburant fossile, avec des batteries un peu plus de compétences, de capacités un peu plus importantes, et qui permettra cette transition entre les deux. Aujourd'hui, oui, pour moi, c'est peut-être l'investissement quelque part de trop pour cette transition qu'on nous force un peu à faire, faut le dire. Vous allez dans une concession aujourd'hui, on vous présente le modèle hybride rechargeable ou le modèle électrique.
Oui, puisque en 2035, normalement, il y aura plus de véhicules thermiques.
C'est ça. Donc avoir ce surcoût, vous savez que vous achetez un véhicule électrique, soit vous allez charger sur votre prise, soit vous allez charger, passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures sur une borne publique. Parce que c'est ça la réalité, un véhicule électrique sur une borne, il va mettre à peu près 7, 8, 9 heures à charger. Si vous n'avez plus de batterie, vous allez passer la nuit dessus, quoi. Donc l'avantage d'avoir une borne à la maison ou en entreprise, c'est effectivement de pouvoir, pendant que vous passez la journée à l'entreprise ou la nuit à la maison, de charger votre véhicule et de ne pas vous retrouver avec des changements d'habitude un peu compliqués, quoi.
Il y a des bornes de plusieurs puissances.
Tout à fait.
Oui, oui. Et la moyenne pour recharger.
Alors ça dépend de votre système électrique que vous avez à la maison. Je ne sais pas si vous avez une notion de monophasé, triphasé, parle.
Oui.
La plupart des domiciles de personnes
monophasé.
Sont en monophasé. La borne dans ces cas-là ne va pas au-delà de 7 kg.
D'accord.
7 kW. Vous avez après donc du triphasé en entreprise ou dans certaines vieilles maisons ou dans les collectivités, vous êtes en triphasé, vous pouvez aller jusqu'à 22 kg sur les bornes qu'on propose. C'est la même borne qui permet de s'adapter en fait à 7 kg, 11 kg ou 22 kg. Et après on a des bornes qu'on appelle les superchargeurs qu'on retrouve sur les stations-service ou autres, qu'on propose aussi, qui là vont jusqu'à 150 kW.
En temps, 22 kg, vous traduisez
22 kg, vous pouvez, alors vulgairement, on peut se dire une batterie de 50 kg. 22 kg, où on va globalement prendre la batterie de 50 kilos, les 22 kilos, et on va dire voilà, en 3-4 heures on charge, parce
d'accord.
que vous avez une charge qui n'est pas forcément linéaire. Mmh. Vous allez avoir voilà, une charge qui va progresser pour faire chauffer
ah oui,
la batterie,
oui.
qui va à un moment
oui,
stabiliser, puis qui va redescendre
principe.
Après. Mmh. Pour donner un exemple, sur un hybride rechargeable par exemple, vous mettez 7h30, 8h sur une prise, vous allez mettre 2 heures sur une borne si vous avez le bon chargeur embarqué, sinon vous mettez 4 heures. Tout dépend de la vitesse de charge, parce que les véhicules eux aussi sont bridés. Donc des fois, c'est pas forcément utile d'avoir une borne qui charge
puissante.
Très vite.
Oui, oui.
D'ailleurs, les superchargeurs sont de plus en plus déconseillés, notamment les Tesla qui en ont abusé, surtout avec des batteries qui crament un peu, qui perdent en efficience. Et pour le coup, une borne de 7 kilos chez vous vous permet de recharger votre voiture électrique dans la nuit, parce qu'encore une fois, vous n'êtes jamais à zéro. Donc pour le coup, vous avez déjà une partie de la batterie qui est chargée, donc en une nuit, c'est largement fait, ce qui n'est pas le cas sur une prise.
Oui.
J'ai une anecdote là-dessus très vite sur une
cliente.
Je vous en prie. On a une cliente qui nous appelle, une infirmière libérale sur Vauréal, qui nous dit voilà, je viens d'acheter un véhicule électrique et je pars le matin à 6h et je reviens à 22h voir mes patients. On m'a dit que je pouvais charger sur la prise, sauf que au bout de 3 jours, en fait, la charge prenait beaucoup plus de temps que ce qu'elle mettait elle comme temps à vider sa batterie en fait.
Mm-hmm.
Donc elle nous a appelé un peu catastrophée en disant je vais plus pouvoir aller voir mes patients. Donc il me faut une borne, et donc on est allé dès le jour même étudier son besoin. Le lendemain on lui a envoyé une offre, elle l'a validée, et en fin de semaine elle était installée, et donc elle a pu avoir une borne. Elle nous a envoyé plein d'autres clients justement
ouais.
là-dessus, parce
ouais,
qu'effectivement
ouais.
il y a aussi ce
ça avait été probant.
Tout à fait, il y a aussi ce côté où certains concessionnaires ou certains vendeurs maîtrisent peut-être pas totalement aussi ce rapport
oui,
de la charge.
Le sujet, ouais.
Une 208, c'est entre 15 et 20 heures voilà, suivant la batterie pour charger. Donc ça fait long, ça fait une journée sans tourner.
Julien Martinez, c'est passionnant hein, aussi tout ce que vous nous dites. Vous parliez tout à l'heure à propos des hôtels de monétiser. Donc, on paye comment? Il faut un badge. Comment ça fonctionne?
Il y a plusieurs méthodes.
Oui.
Vous allez trouver des badges, une application mobile, des QR codes, des cartes aussi qui permettent voilà d'activer la borne. Nous aujourd'hui, on propose donc à nos clients, que ce soit des pros d'ailleurs hors hôtel, hein, toute personne qui veut monétiser sa borne peut le faire avec donc ces solutions-là via l'application mobile, via des badges ou des QR codes pour que les gens puissent se charger. C'est eux qui choisissent le prix, c'est eux qui choisissent les modalités de paiement et c'est eux qui récupèrent les fonds.
C'est ça.
Important.
C'est-à-dire qu'on loue sa borne, on loue
c'est
sa
ça.
Propre borne.
Exactement.
Pour se rentabiliser.
Tout à fait. Vous avez aujourd'hui dans des hôtels principalement ou dans des voies publiques des bornes qui ont été autorisées entre guillemets à être là, mais qui ne sont pas exploitées par l'hôtel en question. Nous, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas venir occuper un espace. On estime que voilà c'est l'hôtel qui s'équipe. On fait nous en sorte qu'il puisse voilà amortir son investissement et l'hôtel récupère les fruits finalement de cette monétisation là sans que nous on prenne une quelconque commission ni rien, puisque on estime que c'est pas le
but de l'entreprise.
Exactement,
ouais,
exactement.
Ouais.
Un hôtel qui, par exemple, qui monétise sa borne à hauteur de 80% d'utilisation, en 4 mois a amorti son année de location.
D'accord,
c'est un exemple
d'accord.
qui est très
ah oui, probant. C'est très parlant.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Et quand vous installez une borne, il y a un coût d'installation? Et il s'élève
à
combien?
C'est une très bonne question, parce que c'est un coût qui fluctue par rapport déjà à la longueur de câble et à la complexité de l'installation. C'est là où c'est très compliqué on peut pas chiffrer une installation comme ça
pour nous donner entre le prix minimum et plus.
Bien sûr, nous notamment les offres que l'on a fait à 39,90 commencent avec 10 mètres de câble, jusqu'à 10 mètres de câble. C'est-à-dire qu'on a estimé que voilà sur la longueur de 10 mètres de câble on allait mettre tant de temps à installer et que par rapport au coût du câble, par rapport au coût de l'installation, on pouvait maîtriser ce coût-là. Et donc vous allez en fait suivant les typologies d'installation pour le coup avoir une fluctuation liée au câble et à la complexité de l'installation. Quelqu'un qui va avoir 10 mètres de câble mais où il faut passer dans des combles, redescendre, enfin
c'est pas la même
complexité.
Bah, on comprend
que
bien, oui.
10 mètres linéaires, donc on n'aura pas le même tarif. Après il faut compter voilà pour notre borne nous est à un prix public qui est à 949 € en achat et on prend donc pour la location on prend ce tarif de la borne, et on vient ajouter le coût de l'installation. Donc il va fluctuer, on peut avoir des installations à 400-500 euros, comme des installations qui voilà, vont être bien plus chères suivant ce qu'il y a à faire.
C'est ça.
Il y a des travaux aussi à faire.
Il faut compter, disons, une moyenne de 1500 euros, quoi, borne et installation.
On commence effectivement dans les 1600 euros aujourd'hui avec la garantie, avec la borne et l'installation complète. Ouais.
Julien Martinez, je crois qu'on pourrait vous écouter des heures encore. Alors un mot pour dire aussi que vous avez fait partie, comme Frédéric Nouchi, des lauréats de la session Equitender. Un petit mot sur cette session.
Mais écoutez, c'était effectivement très enrichissant. Nous, on a un parcours, puisqu'on a commencé à commercialiser notre solution en mars 2022. Mm-hmm. On a fait notre première levée de fonds en mai 2022. Donc on a très rapidement été chercher des fonds. Et là, on prépare notre deuxième levée de fonds, nous aussi. Et donc, d'où Equitender. Et pour le coup, on a rencontré des fonds d'investissement et des business angels aussi, à l'instar de Frédéric, et c'est un événement très intéressant, voilà, parce que pour le coup ça nous permet de confronter un peu nos projets aussi, et puis de se dire voilà qu'il y a encore une vraie activité VC aussi aujourd'hui en France, et que les secteurs voilà sont aujourd'hui bien représentés. On a énormément de secteurs différents, mm-hmm. On est start-up de tout, puisqu'il y a des Papondu, je crois, aussi qui est avec nous à la Turbine,
que je reçois la semaine prochaine. Donc vous voyez, je suis contente parce que j'ai eu du
cette
fois-ci.
Aussi avec Maxime, avec
différents secteurs.
Ouais, voilà. Complètement.
Donc très enrichissant, vraiment, on croise les doigts, on a des bonnes touches intéressantes.
Très bien, mais écoutez, alors encore juste un mot, parce que l'heure tourne. Je crois que vous cherchez à renforcer vos équipes sur la partie marketing et de vente.
Tout à fait.
Donc, on cherche un appel à la radio.
Bien sûr. Oui. Alors, soit des alternants, effectivement, pour venir grossir notre équipe, ou des gens, voilà, qui voudraient en CDI, en CDD, nous rejoindre pour développer notre activité, aussi bien sur nos clients B2B que B2C.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Julien Martinez, pour tout ce partage. Et puis, on sent que vous avez beaucoup d'énergie, sans mauvais jeu de mots. Rappelez-nous comment vous contacter.
Alors, vous avez donc les deux sites internet. Acheter ma borne n'est pas encore sorti. On va le sortir pendant le salon de l'auto.
Oui.
Donc achetermaborne.fr et donc louermaborne.fr, louer ER, est en ligne. Vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux. Voilà, aussi bien LinkedIn que Facebook ou Instagram, et nous contacter voilà par téléphone ou par mail. Vous pouvez faire une demande directement sur le site pour une demande de devis sur l'installation de borne.
Un marché mondial où j'ai pu voir que les Chinois sont très présents. En revanche, Volkswagen n'y est pas.
Le mondial de l'auto, vous parlez?
Oui, mondial de l'auto.
Il y a
de
plein
l'auto.
De constructeurs. Il y a tous les constructeurs allemands n'y sont pas allés.
J'ai dit une bêtise, c'est mondial de l'auto, oui.
Oui, effectivement, il y a Citroën n'est pas officiellement là. Ouais. Les constructeurs allemands ne sont pas venus. On est sur un format raccourci, pour le coup, puisque ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de mondial de l'auto. On va voir, nous, on s'y rend. On va aller, y aller mercredi et donc participer un petit peu à tout ça et faire un petit peu le tour. Donc, on est très curieux de voir ce qui va être présenté sur le domaine de l'électrique, justement, puisque c'est très axé sur l'électrique aujourd'hui.
Bien sûr. Merci infiniment, Julien Martinez. Et puis, vous nous tiendrez au courant pour votre levée de fonds et puis la suite à donner. Alors voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Peut-être un mot de conclusion, Frédéric Nouchi, avant de nous quitter.
Écoutez, en tout cas, je voulais vous remercier de nous avoir donné le micro.
Écoutez, moi, j'ai adoré vous accueillir.
Ça a été effectivement très intéressant d'échanger avec vous et avec Julien. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ça le message. Effectivement, les problématiques sont quotidiennes aujourd'hui. On entend ça dans les journaux à 80% de volume de médias, et qu'aujourd'hui les solutions sont bien là et qu'il faut simplement les solliciter. Et on est là effectivement pour ça.
Ben pareil, Frédéric, vous nous tiendrez au courant de votre levée de fonds et puis de la suite de Aliseos.
Merci Jacqueline. Merci
Julien
beaucoup.
Martinez, juste un mot de conclusion, si vous voulez rajouter quelque chose.
J'ai beaucoup parlé déjà, mais si vous êtes passé sur une voiture électrique ou hybride rechargeable et que vous souhaitez faire de la location, on sera ravi de vous accompagner, que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité, et nous permettre de passer cette transition à moindre coût.
Très bien, voilà. Écoutez, j'espère que nos auditrices et auditeurs auront bien reçu le message de vous deux. Merci donc à tous les trois, avec Francesca qui a dû nous quitter, d'avoir été les invités de l'économie en direct. Puis bravo à tous pour cette superbe trajectoire.
Merci Jacqueline.
Merci Jacqueline.
Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Retrouvez cette émission comme bon vous semble avec le podcast de l'émission sur idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vendredi prochain à 9h30, je recevrai Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et avec lui, nous parlons du Made in 95, du Made in France, du prochain salon effervescence. Voilà, beaucoup de sujets à traiter. Alors à vendredi. D'ici là, belle journée et prenez soin de vous.